7h30, le journal de Paul Sertillange. Bonjour Paul.
Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. La guerre en Ukraine et la session extraordinaire de l'ONU. Les Nations Unies ont condamné la Russie hier. Elles se penchent aujourd'hui désormais sur la crise humanitaire. Les civils par centaines de milliers sur les routes pour fuir, mais des millions restent, faute parfois de moyens de transport. Cet étudiant congolais est bloqué près de Kiev. Nos envoyés spéciaux l'ont rencontré. Quand les sportifs russes privés de compétition internationale, les sportifs ukrainiens, certes pour certains, prennent les armes pour défendre leur pays. Dans ce journal également, la présidentielle et les parrainages, ces candidats dépités qui n'auront pas les 500 signatures, le rapport du GIEC et la menace de plus en plus proche pour les Antilles, et puis la Coupe de France de football et le petit poussé Versailles face à une grosse écurie de Ligue 1.
Et au micro d'Alexandra Ben Saïd, dans 20 minutes à 7h50, c'est ce matin l'essayiste et eurodéputé Place Publique, Raphaël Glucksmann.
France Inter.
La guerre en Ukraine, de nouveau au menu de l'ONU aujourd'hui.
Les condamnations envers la Russie se sont succédées hier lors d'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée Générale. En parallèle, les États-Unis ont expulsé 12 diplomates russes accusés d'espionnage. Et désormais, le Conseil de sécurité doit évoquer les conséquences humanitaires du conflit. Cela devrait déboucher sur une résolution votée aujourd'hui à Washington. Sébastien Paour.
C'est la France qui a demandé cette réunion en urgence du Conseil de sécurité pour évoquer les conséquences humanitaires du conflit. Le représentant français Nicolas Rivière salue le courage dont fait preuve le peuple ukrainien avant de dénoncer l'attitude de la Russie.
La Russie, membre permanent de ce Conseil, viole les principes les plus fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Elle piétine le droit international humanitaire, elle bafoue les droits de l'homme, elle piétine les conventions de Genève.
Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés parle de plus de 520 000 personnes qui ont déjà fui dans les pays voisins de l'Ukraine, plus de la moitié en Pologne. Il précise que le chiffre augmente d'heure en heure de manière exponentielle depuis jeudi dernier.
I have worked in refugee crisis for almost 40 years.
Je travaille dans le domaine de la crise des réfugiés depuis près de 40 ans et j'ai rarement vu un exode de personnes aussi rapide.
Exodus of people.
Le plus grand sûrement en Europe depuis les guerres des Balkans.
Within Europe. Since the Balkan Wars.
La vie de millions de civils est en jeu, résume le coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, qui dit sa gratitude aux pays voisins de l'Ukraine et demande que les frontières restent ouvertes aux ONG. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Ces millions de civils en danger, ce sont les Ukrainiens bien sûr, mais il y a aussi des étrangers, ils sont des milliers dans le pays, il y a notamment des étudiants sans moyens de transport, beaucoup se retrouvent pris au piège. C'est le cas de cet étudiant congolais rencontré par deux de nos envoyés spéciaux à Kiev, Gilles Gallinaro et Omar Waman.
Je m'appelle Daniel, je suis étudiant congolais de Kinshasa.
Daniel a débarqué à Kiev il y a tout juste 2 ans. Pourquoi l'Ukraine ?
Parce que c'est le seul pays qui m'a donné le visa pour les études.
Étudiant en informatique, il rencontre la mère de son enfant, née il y a 4 mois à peine, en pleine tension entre la Russie et l'Ukraine, qui a débouché la semaine dernière sur la guerre.
Pendant 4 jours durant, je ne dors pas bien et je ne mange pas bien parce que je suis très stressé. Je ne sais pas où est-ce que ça pourrait tomber la bombe.
Daniel voit ses voisins prendre la fuite. Lui hésite et se retrouve aujourd'hui piégé dans son appartement à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Kiev.
Dès les premiers jours, je n'ai pas pris la fuite. Et maintenant, la circulation elle est difficile. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de bus pour que je me rende à la station de train.
Vous avez des amis africains ? Eux, ils ont pu partir ?
Oui, ce matin, je les ai contactés. Ils m'ont dit qu'ils ont bien traversé. Ils sont en Pologne, d'autres sont en Allemagne. Il y a un qui m'a dit qu'il prend le bus pour aller en Belgique.
Daniel espère retrouver ses amis au plus vite. Mais l'avancée des forces russes sur la capitale pourrait retarder encore davantage son départ. Kiev, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
À Kiev, où l'armée russe maintient sa pression, Moscou assure que les civils peuvent quitter librement la ville en accusant le pouvoir ukrainien de les utiliser comme boucliers humains. Les Ukrainiens affirment avoir repoussé hier plusieurs tentatives d'assaut. La capitale résiste, mais encore combien de temps ? Il y a ces images satellites ce matin qui interrogent. Diffusées par une société américaine, on y voit un convoi militaire russe long de plus de 60 km, proche actuellement de l'aéroport Antonov à 25 kilomètres du centre-ville. Les négociations doivent se poursuivre dans les jours qui viennent, mais la rencontre hier n'a rien donné à la frontière avec le Bélarus. Alors que dans le même temps, des bombardements et des tirs visaient notre territoire, déclaré à l'issue le président ukrainien. Selon lui, la synchronisation des tirs avec le processus de négociation était évidente. Volodymyr Zelensky, qui a exhorté l'Union européenne à intégrer sans délai son pays via une nouvelle procédure spéciale. Dans le même temps, lors de l'entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine hier, le président russe a répété qu'un statut neutre de l'Ukraine était un préalable à la fin de l'invasion. Les sanctions contre la Russie se poursuivent aussi dans le milieu sportif. Exclu de la Coupe du Monde de football, le pays est désormais suspendu par les organisateurs du Mondial de rugby. Les Russes privés de compétition quand certains Ukrainiens y renoncent pour prendre les armes. Ils sont de plus en plus, Fanny Lechevestrier, notamment de nombreux boxeurs.
Dans le sillage de l'ancien champion du monde des poids lourds et actuel maire de Kiev, Vitali Klitschko, trois autres boxeurs ukrainiens ont en effet décidé de délaisser les gants pour combattre aux côtés de l'armée, comme le double champion olympique Vasil Lomachenko, parti rejoindre un bataillon de défense territoriale près d'Odessa. Il a posté une photo de lui sur les réseaux sociaux, armant bandoulière et en tenue militaire. L'Ukrainien Oleksandr Ruzik était lui la semaine dernière encore à Londres. Il a décidé de rentrer au pays. Une photo le montre aujourd'hui en combattant dans la région de Kiev, tout en appelant le peuple russe à ne pas envoyer ses enfants se battre contre leurs frères. Autre star en Ukraine, le champion de MMA Yaroslav Amosov, après avoir mis sa famille à l'abri, il explique dans une vidéo prendre les armes à son tour. « La guerre est bien réelle », décrit-il. « Je la vois de mes propres yeux, je l'entends. Il se passe des choses terribles ici », conclut-il, s'en prenant à ceux qui nient la réalité de l'invasion russe en Ukraine.
Fanny Lechevestrier.
France Inter, 7h37, ils n'ont plus que 3 jours pour atteindre les 500 parrainages.
Les 500 signatures d'élus pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Il y a ceux qui les ont déjà, ceux pour qui ça va passer, comme Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et puis, il y a ceux pour qui ce sera trop juste. William Delesseux, difficile à avaler pour eux, ils dénoncent un déni de démocratie.
Il est cheminot et en ce moment candidat d'extrême gauche du mouvement Révolution Permanente. Anas Kazib, 130 parrainages.
Il y a un certain nombre de pressions qui sont sur les épaules des maires qui avaient promis leur parrainage. On n'arrête pas, mais on est face à un processus totalement antidémocratique aujourd'hui qui fait qu'on va avoir des difficultés à pouvoir être sur la ligne de départ. Il y a un problème pour nous pour dépasser en fait ce système-là avec nos petits bras musclés quoi.
Il assure qu'il n'a pas démérité non plus, Georges Kuzmanovic de République Souveraine, 42 signatures.
Ça commence à devenir très difficile, oui, effectivement.
Pour lui, il faut rétablir l'anonymat des parrainages devenus nominatifs en 2016.
Nous avons un assèchement de la démocratie. Le vote de chacun d'entre nous se fait dans un isoloir, il y a bien une raison, c'est pour être à distance de toutes les pressions. Et bien là, les maires sont exposés. Et donc, voient leur parrainage se transformer de facto en soutien.
Quant à Clara Eger, 24 parrainages pour son mouvement qui prône le référendum d'initiative citoyenne, elle lance un appel aux maires.
Parrainer, c'est un devoir. Être un élu, ça vient avec des privilèges et des coûts. Et le coût, bah, ça peut être d'avoir à expliquer à ses concitoyens ce que ça veut dire un parrainage. Un parrainage, c'est pas un vote.
Comme d'autres, elle dénonce un système représentatif en panne qu'il serait urgent de réformer à la prochaine présidentielle.
Les parrainages, on devrait connaître le détail dans la journée. Le Conseil constitutionnel va rendre public les derniers chiffres. Les rapports du GIEC se succèdent et les échéances semblent toujours plus proches. Dans le dernier publié hier, les scientifiques font la liste. À l'heure actuelle, déjà près de la moitié des habitants de la planète sont dans des zones de danger, risque de submersion, sécheresse, incendie. Et d'ici 2050, ce sont 1 milliard de personnes qui pourraient être victimes d'inondations à cause de la hausse du niveau de la mer. Certaines petites îles tropicales pourraient même purement et simplement être submergées. C'est le cas aux Maldives, au Tuvalu. Mais les Antilles et la Polynésie française sont aussi concernées, Sylvia Kiré.
Des vagues de plus en plus puissantes pendant les tempêtes, des cyclones très intenses avec des vents de plus de 360 km/h. Certaines îles tropicales ne seront plus habitables avec 1,5 degré de plus sur le thermomètre. Et cela concerne la Guadeloupe, alerte Virginie Duva-Magnan, géographe au CNRS à l'Université de La Rochelle. Elle a participé à ce nouveau rapport du GIEC.
En Guadeloupe, dans cette zone critique de Pointe-à-Pitre, Le Raisin, Jarry, à partir de 2030, on s'attend à des submersions chroniques qui vont se produire par beau temps à marée haute, sans même qu'on ait aucune tempête en fait. Hein. Et à partir de 2060-2080, on pourrait avoir jusqu'à 180 jours de submersion par an.
Des populations devront donc aller vivre un peu plus loin, il faut s'y préparer dès maintenant.
Certaines installations devront être déplacées vers l'intérieur des terres, toutes celles finalement qui ne requièrent pas la proximité immédiate de la mer. En revanche, pour ce qui concerne par exemple les ports, il y a une urgence qui est de rehausser les quais par exemple, ou protéger quand on le peut avec de l'ingénierie côtière. Il y a urgence effectivement sur Pointe-à-Pitre, de la même manière en fait qu'on a des situations d'urgence dans la totalité des Outre-mer et des petites îles tropicales, et dans un certain nombre de cas, ça concerne les capitales.
Et selon ce rapport, la Polynésie française n'est pas épargnée, des infrastructures, ports, aéroports pourraient être submergés de manière chronique à partir de 2050.
Et vous pouvez retrouver le dernier rapport du GIEC décortiqué sur franceinter.fr.
La première demi-finale de la Coupe de France de football ce soir.
Avec un match comme on les aime dans cette compétition, une des meilleures équipes actuelles de Ligue 1, l'OGC Nice, face à Versailles en National 2, la 4e division. Et la belle histoire de ce club amateur attire jusque de l'autre côté des frontières, Julien Froment, en Espagne, en Italie ou encore en Grande-Bretagne.
Sur la piste d'athlétisme qui entoure la pelouse du stade Montbourreau, une trentaine de journalistes attendent les joueurs du FC Versailles. Parmi eux, Andrés Onrubia, correspondant pour le quotidien sportif espagnol AS.
C'est pas normal qu'une équipe nationale 2 aille très loin dans la Coupe de France. On est là pour faire un reportage sur l'équipe, sur l'histoire de l'équipe. Pour moi, c'est plus intéressant de créer une histoire d'une équipe comme Versailles qu'une histoire comme le PSG par exemple.
Le Guardian, El Corriere dello Sport, toute l'Europe s'intéresse désormais au parcours du club yvelinois. Ce qui n'est pas pour déplaire au milieu de terrain, Melvin Vieira.
Comme on s'est habitué, c'est pas la première fois. Ben, ça fait bizarre, c'est sûr que ça fait bizarre. Après, c'est plaisant pour un joueur amateur d'être mis en lumière et en valeur comme ça. Donc, on prend.
Être médiatisé, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important pour Johan Brun.
Quand j'ai mon père au téléphone et que je sais qu'il va venir à Nice voir son fils jouer en demi-finale de Coupe de France, et même pour nos compagnes, elles subissent quand même la même vie que les femmes de footballeurs sans avoir les sacs Louis Vuitton tous les deux jours. Donc, voilà, c'est une récompense pour nous et pour tous nos proches.
Le FC Versailles espère désormais réaliser l'exploit à Nice pour mener encore quelques semaines la vie de château.
Et l'autre demi-finale opposera demain le FC Nantes à l'AS Monaco.
Merci Paul Sertillange pour ce journal. L'édito politique est à suivre.